RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est ce soir que s'achèvent les référendums d'annexion en Ukraine. La Russie donne le « là » en pronostiquant une large victoire du « oui ». On y revient dans un instant. En marge de la guerre en Ukraine, que s'est-il passé sous la mer Baltique? Les deux gazoducs Nord Stream sont victimes de fuites inexpliquées. Et puis c'est l'automne et malgré tout, les Côtes d'Armor risquent de se retrouver à sec. Une pénurie d'eau potable menace. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une surprise. La commission électorale russe annonce ce soir que le oui l'emporterait lors des pseudo-référendums d'annexion entre 97 et 98% selon des résultats préliminaires portant sur les bureaux de vote en Russie. Alors que le comptage a commencé aussi dans les quatre régions ukrainiennes sous contrôle de Moscou. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken affirme ce soir que les États-Unis et leurs alliés ne reconnaîtront jamais l'annexion par la Russie de territoire en Ukraine. C'est une violation flagrante du droit international, poursuit le secrétaire général de l'OTAN. Pas de quoi freiner le Kremlin, estime toutefois Julien Théron, enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po.
Ce qui va changer beaucoup, c'est dans l'argumentaire du Kremlin. Tout cela a été organisé d'ailleurs complètement à la hussarde dans quelques jours. Donc c'est une position rhétorique qui n'a absolument aucune forme de légalité internationale. Ça va permettre à Moscou de dire ces territoires-là appartiennent à la Fédération de Russie. Et ben l'intérêt, c'est pour la population russe de motiver quelque chose qui était difficilement compréhensible par les Russes. Il y a la nécessité d'un argumentaire de ce point de vue-là. Ça permet de contraindre les Ukrainiens à abandonner ces régions de leur territoire souverain en affirmant qu'en fait ça n'en fait plus partie, ce qui est fort peu probable que ça fonctionne. Et puis enfin, de faire peur aux Occidentaux en disant s'il y a une attaque contre le territoire de la Fédération de Russie, ou en tout cas ce que la Fédération de Russie croit être son territoire, eh bien à ce moment-là, nous sommes en droit d'utiliser l'arme nucléaire puisque la doctrine russe parle de menace existentielle.
Et Bruxelles, qui considère ces référendums comme illégaux, prépare de nouvelles sanctions économiques et individuelles contre la Russie. L'agence européenne Frontex annonce aujourd'hui que le nombre de Russes arrivés dans l'Union européenne a augmenté de 30%, alors que le flux des hommes fuyant la mobilisation ne se tarit pas. Le président kazakh, lui, promet de protéger les déserteurs. L'ONU, de son côté, s'inquiète des arrestations en Russie. 2400 personnes interpellées selon les Nations Unies ces derniers jours. Et pendant ce temps-là, en mer Baltique, les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été touchés par des fuites inexpliquées. Controversés et hors service en raison de la guerre, ces deux pipelines reliant la Russie et l'Allemagne étaient encore remplis de gaz. Et ce soir, l'hypothèse d'un sabotage prend de l'ampleur, Baptiste Madinier.
Et oui, tant du côté danois et suédois que du côté du Kremlin, Moscou se dit extrêmement préoccupé, estimant qu'il ne faut exclure aucune hypothèse. Et pour la première ministre danoise, Mette Frederiksen, il est difficile d'imaginer que c'est accidentel. En effet, des explosions sous-marines ont été enregistrées dans la zone où se sont produites les fuites. La première date de 2h dans la nuit de lundi et la seconde à 19h04 lundi soir. Alors, qui est derrière ces explosions? Pour l'instant, mystère. Seule certitude, la zone concernée n'est pas habituellement utilisée pour des exercices militaires. Ces derniers mois, on sait que les deux pipelines exploités par le consortium du géant russe Gazprom ont fait l'objet d'un bras de fer géopolitique entre les Occidentaux et la Russie. L'exploitant dit ne pas avoir pu ni voir ni évaluer les dégâts. Mais en mer, les trois fuites au large de l'île danoise de Bernholm sont bien visibles en surface, avec des bouillonnements allant de 200 mètres à 1 km de diamètre. La navigation est d'ailleurs interdite dans ce secteur dans un rayon de 9 km.
En bref, dans le monde, l'Iran et la répression a fait plus de 75 victimes en 10 jours selon une ONG. Plusieurs pays occidentaux dont la France appellent Téhéran à cesser l'usage de la force contre les manifestants. Les autorités iraniennes avancent de leur côté un bilan de 41 morts, incluant des membres des forces de l'ordre et l'arrestation de plus de 1200 personnes. En France, les évêques ont fait part de leurs inquiétudes à Emmanuel Macron aujourd'hui concernant la fin de vie. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, et le père Hugues de Walmont, secrétaire général, ont été reçus finalement ce matin à l'Élysée par le président de la République. Un rendez-vous de longue date fixé après la réélection d'Emmanuel Macron. Rattrapé par l'actualité, ils ont bien sûr parlé du projet de loi sur la fin de vie. Étienne Pépin.
Nous avons pu redire au président de la République notre inquiétude devant ce projet de loi sur la fin de vie, explique le père Hugues de Walmont après la rencontre avec Emmanuel Macron. Avec Mgr Éric de Molin-Beaufort, pendant plus d'une heure, ils ont pu exprimer, je cite, leur volonté que la société tout entière donne un signe d'aide active à vivre et non pas d'aide active à mourir. À ce titre, ils ont aussi défendu le développement et la promotion des soins palliatifs trop peu déployés, selon eux, aujourd'hui en France. Les représentants de la CEF se sont également montrés fermes sur les conditions du futur débat sur la fin de vie, un débat qu'ils souhaitent ouvert et apaisé pour que la Convention citoyenne soit un vrai lieu d'écoute, en particulier des soignants qui connaissent les enjeux sur le sujet. Le chef de l'État leur a assuré cela, affirmant qu'il ne souhaite pas que le débat sur la fin de vie divise la société française.
Le parquet de Paris ouvre une enquête pour détournement de fonds publics. Elle vise la dernière campagne présidentielle des Républicains de Valérie Pécresse. Ces investigations font suite à un signalement en avril 2022 lancé par Julien Bayou, élu Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France, présidé justement par Valérie Pécresse. Julien Bayou, qui avait démissionné de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, lundi, il sera remplacé par une direction collégiale intérimaire à la tête du parti. Les deux secrétaires nationaux adjoints, Léa Balagel-Mariki et Jérémy Crépel, prennent les rênes jusqu'au prochain congrès qui doit désigner un nouveau patron des Verts en décembre. On a beaucoup parlé du projet de budget 2023 présenté lundi en Conseil des ministres, un peu moins de la dette et pourtant elle va continuer de grimper avec un chiffre qui donne le tournis. L'État va compter lever l'année prochaine 270 milliards d'euros de dette sur les marchés financiers. C'est une annonce de l'agence France Trésor hier alors que les taux d'emprunt continuent d'augmenter pour les États. Pour Agnès Verdier-Molinier, économiste à l'IFRAP, on est en train de passer dans une dimension inquiétante.
On arrive dans une zone rouge, hein, puisque la charge de la dette, elle est annoncée à 51,7 milliards pour cette année 2023, alors que la loi de finances initiale 2021, elle était à 39 milliards en charge de la dette. Vous voyez comme ça galope très très vite. Hein. Au mois de juillet, on a déjà autant de charges de la dette que l'année dernière sur la totalité de l'année. On se dirige vers des années où on va avoir une explosion de la charge de la dette. On est rentré dans une nouvelle période et l'impression que ça donne, c'est que le gouvernement ne l'a pas totalement intégré. Hein. Ils imaginent qu'on va finir l'année à 2,6% de taux sur la dette à 10 ans de la France. Bah, pour qu'on y soit, il faudrait vraiment qu'on annonce des grosses réformes. Hein, parce que, clairement, si on ne montre pas que la France est capable de se réformer à ceux qui nous prêtent de l'argent, ils vont demander plus cher pour prêter à la France.
La ville de Caen, victime d'une cyberattaque aujourd'hui, elle a perturbé notamment l'état civil, mais les données de la collectivité n'ont, semble-t-il, pas été atteintes. Aucune rançon n'a pour l'instant été demandée. La campagne de rappel anti-Covid avec les nouveaux vaccins adaptés à Omicron va démarrer le 3 octobre, a annoncé ce matin le ministre de la Santé, François Braun. Le premier des nouveaux vaccins arrivés en France, celui de Moderna, sera disponible à partir de la fin du mois. 576 000 doses sont attendues dans un premier temps. Mais cette campagne de rappel ne concernera pas toute la population. Les personnes fragiles, les plus de 60 ans et les professionnels de santé seront d'abord prioritaires. Malgré le retour de la pluie, la sécheresse persiste en Bretagne. Dans les Côtes d'Armor, la pénurie d'eau potable guette. Si les habitants ne changent pas leurs habitudes de consommation dans les prochaines semaines, il y a un risque de rupture, alerte Stéphane Rouvet, il est préfet des Côtes d'Armor.
On voit qu'aujourd'hui, on a une visibilité sur la disponibilité de la ressource en eau potable à 45 jours. Et ça veut dire malgré tout que fin octobre, on peut avoir des sujets compliqués de gestion de l'eau potable dans certaines parties du territoire. On pourrait se retrouver dans une situation où la population d'une commune, plus ou moins importante, n'aurait plus d'eau potable, parce que le système ne permettrait plus de l'alimenter au robinet. Dans ces cas-là, effectivement, il y a un plan ORSEC qui prévoit de mobiliser de l'eau en bouteille à raison de 3 litres par personne. Donc c'est juste pour les besoins vitaux, hein, mais uniquement pour les besoins vitaux. On espère ne pas en arriver là, mais ça fait partie des hypothèses de travail qu'on ne peut pas négliger et on nous reprocherait de ne pas les avoir anticipées. On espère franchement ne pas en arriver à cette situation.
Et puisque l'on parle des conséquences du réchauffement climatique, des ONG du monde entier menacent d'attaquer des gouvernements en justice pour leur inaction climatique. Elles ont co-signé aujourd'hui une lettre pour demander au gouvernement d'agir de façon plus décisive. Sans réponse, elles se tourneront vers les tribunaux. Justine Ripoll est chargée de campagne de Notre Affaire à tous, l'une des associations signataires qui avait déjà poursuivi l'État français pour inaction climatique.
Du point de vue des 80 cas qui ont été déjà déposés dans le monde, c'est une stratégie qui s'avère clairement payante. Dans tous les pays déjà, ça a permis de mettre à l'agenda du débat public plus fortement la question climatique. Dans beaucoup de pays, ça a permis de mettre la pression et de pousser le gouvernement à être beaucoup plus ambitieux sur les politiques publiques de mise en œuvre de ces engagements climatiques. Et dans certains pays, on est même après la décision sur un travail qui est fait entre les organisations qui avaient attaqué leur État et l'État lui-même pour mettre en œuvre les décisions politiques et les décisions de justice. Et cette lettre ouverte qui est co-signée aujourd'hui, elle permet aussi pour tous les États qui, à l'heure actuelle, ne sont pas encore attaqués pour une action climatique, de leur faire un peu un point de vigilance et leur dire que c'est un outil qui sera saisi par les communautés et les gens qui les défendent s'il y a besoin de rehausser ou de garantir la légalité de l'action de l'État vis-à-vis de la crise climatique.
Et en ligne de mire pour les ONG, la COP27 en Égypte. Pour les associations, c'est l'occasion de changer de cap, de minimiser l'ampleur des souffrances et des violations des droits humains causées par l'incapacité des États à faire face à la crise et à respecter les obligations légales selon le droit international et national. Fin de citation. Dans l'actualité également, un petit mot de sport avec le mondial féminin de basket. La France va affronter la Chine en quart de finale. Ce sera jeudi. Le tirage au sort a donc désigné un adversaire plutôt abordable pour l'équipe de France puisque les Bleus ont évité les États-Unis. Triple tenante du titre. Et puis il y a des soupçons de triche dans le monde des échecs. Le numéro 1 mondial norvégien critique un jeune joueur américain après deux défaites. Il l'a accusé lundi sur Twitter de triche électronique, une accusation qui inquiète la Fédération internationale des échecs. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur RCF.